Chapitre 2. La tempête approche. Albert Einstein était un homme jeune et remarquable, d'une élégance discrète, portant une moustache épaisse, le regard doux semblant perdu au loin vers l'infini. En ce printemps 1909, c'était déjà une étoile montante. Bien qu'âgé de 30 ans seulement, il était l'objet de l'attention d'hommes de science européens de plus en plus nombreux, qui ne pouvait pas avoir été sans remarquer que ce brillant jeune homme était aussi remarquablement distrait. Un jour, un peu plus âgé, il passa toute une journée à remonter son pantalon, tandis qu'il écrivait des formules sur le tableau dans une classe bondée d'étudiants. Il avait tout simplement oublié de mettre sa ceinture. Mais il y avait une autre raison à ce regard perdu dans le vague et ses oublis des choses bassement matérielles. De fait, le regard d'Albert Einstein était fixé sur l'infini, et ce qu'il y entrevoyait était sur le point de faire basculer le monde sur une pente longue et terrifiante dans ses aboutissements. Depuis quelque temps, il étudiait l'univers, s'interrogeant sur les relations qui pouvaient exister entre ces vastes étendues et la matière, et il était parvenu à une conclusion admissible par tous. De l'énergie était contenue dans la matière, disait-il, en quantité telle que pour l'exprimer mathématiquement, il fallait utiliser comme exposant la vitesse de la lumière. La lumière se déplaçait à une vitesse presque incroyable. Elle pouvait voyager de la Terre à la Lune en un peu plus d'une seconde. En 8 minutes, elle pouvait aller de la Terre au Soleil, distant de 150 millions de kilomètres. Mais Einstein affirmait que l'énergie stockée dans la matière était encore plus grande et qu'il fallait utiliser la vitesse de la lumière au carré. Pour le dire autrement, l'ordre de grandeur entre matière et énergie était de 1 pour 34 milliards. Si l'humanité découvrait un jour le moyen de la libérer, elle produirait la plus forte explosion jamais enregistrée dans l'histoire. Sa théorie commença peu à peu à attirer l'attention d'autres personnalités scientifiques et ingénieurs, d'hommes qui pouvaient se saisir d'une abstraction et la mettre en application. En Amérique, en Allemagne et même en Russie, des scientifiques jouèrent avec ce monstre fascinant, scrutant l'atome avec des formules mathématiques et des cyclotrons, simplement pour voir si l'énergie stockée là pouvait bien être libérée. La Seconde Guerre mondiale éclata. Les ingénieurs allemands rassemblèrent ce qu'il fallait pour pratiquer un essai nucléaire. En même temps, les scientifiques américains, avec leur projet top secret Manhattan, commencèrent à travailler sur un moyen de leur côté. Et un jour de juillet 1945, la chose était prête pour son premier essai. Le matin du 16 juillet 1945, juste avant l'aube, la première explosion nucléaire au monde fut réalisée au sommet d'une tour métallique de 40 mètres dans le désert du Nouveau-Mexique. Cet événement dépassa l'imaginable. La région entière fut illuminée d'une lumière aveuglante, d'une intensité plusieurs fois supérieure à celle du soleil. Elle était dorée, pourpre, violette, grise et bleue. Elle fit ressortir tout pic, toute crête et toute crevasse avec une netteté et une beauté impossibles à décrire. À une dizaine de kilomètres de là, un observateur dit avoir ressenti une sensation de chaleur intense sur son visage et ses bras nus, tandis qu'un autre resta bouche bée devant le spectacle d'une boule de fumée d'un rouge éclatant s'élevant au-dessus d'une épaisse colonne brun foncé. Première vision du champignon maintenant familier. Cela se passait quelques moments avant que les observateurs frappés de stupeur eussent remarqué que la tour métallique de 40 mètres avait disparu. Elle avait été vaporisée dans l'explosion. Le sable du sol où elle s'était trouvée avait été transformé en verre. 3 semaines plus tard, un engin semblable explosa au-dessus de la ville de Hiroshima. Un éclair précéda une secousse si intense que les piliers de pierre devant la clinique de Shima s'enfoncèrent dans le sol. Une chaleur brûlante atteignit la ville et prit feu. tandis que dans la banlieue, un mystérieux mur d'air invisible balaya tout sur son passage, aplatissant les maisons et pulvérisant du verre dont les débris s'éparpillèrent comme des balles de mitraillette. Alors que le bruit s'apaisait, dans le ciel une colonne emportait une partie de la ville détruite vers les hauteurs, des tonnes de débris pulvérisés projetés par un énorme jet de chaleur. Pendant un moment, la colonne resta au-dessus du paysage dévasté, comme un visiteur venu d'un autre monde, flânant là pour savourer le spectacle de désolation. J. R. Oppenheimer, physicien qui avait collaboré au projet atomique, déclara « J'incarne la mort, le destructeur des mondes ». Au printemps 1909, Ellen White avait décrit une immense boule de feu, provoquant une destruction instantanée, et elle avait supplié le peuple de Dieu de se mettre à l'œuvre avant qu'il soit trop tard. Si chaque soldat du Christ avait fait son devoir, le monde aurait pu entendre le message d'avertissement avant que cela arrive, mais l'œuvre a des années de retard. Les hommes se sont assoupis et Satan nous a devancés, écrit-elle dans Témoignage, volume 9, page 29. En 1945, 36 ans s'étaient écoulés et le prix à payer était élevé. La ville Hiroshima était étendue là, morte sous le soleil du mois d'août. Son centre-ville avait disparu. De grandes zones étaient aussi plates qu'un champ labouré. Sur les collines et les crêtes alentour, les arbres avaient jauni comme par un automne instantané. Et dans les banlieues, les incendies continuaient à faire rage. Les pompiers étaient incapables de mettre leurs engins en marche. 700 ans avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe avait écrit un passage qui prenait maintenant de tristes résonances. « La peur, le trou profond et les pièges, tout cela est pour vous, habitants de la terre. Celui qui fuit les cris de peur tombera au fond du trou. S'il peut remonter du trou, il sera pris au piège. Les fenêtres du ciel s'ouvrent toutes grandes, toute la terre tremble sur ses fondations. » Ésaïe 24, versets 17 et 18. Il décrivait la terre qui se brise au verset 19, et il ajoutait un passage parfaitement adapté pour quiconque vivait après 1945. C'est pourquoi la terre est dévorée par la malédiction de Dieu, et ses habitants sont punis. Ils meurent, et il en reste très peu, verset 6. Les cris de frayeur, le danger venu d'en haut semblant faire vaciller la terre sur ses fondations. Les gens s'enfuyant et tombant dans un trou profond. D'autres dangers les guettent à leur sortie du trou. Que pouvait bien vouloir dire Ésaïe? S'agissait-il simplement d'une allégorie pour l'Ancien Testament, destinée au peuple d'Israël d'autrefois? Ou bien était-ce l'avertissement que le péché livré à lui-même pourrait un jour s'auto-détruire de manière effroyable? Pensée que nous trouvons chez Ellen White. Dans les premières pages du volume 9 des témoignages, Ellen White fait référence à ce chapitre d'Ésaïe et l'associe à une atmosphère d'avant-guerre, guerre encore à venir. Juste avant cette citation d'Ésaïe 24, elle écrivait « Les hommes font preuve d'un état d'esprit guerrier. La prophétie de Daniel 11 est presque complètement accomplie. Bientôt le monde connaîtra un temps de trouble comme il n'y en a jamais eu parmi les nations. » Temps pendant lequel le peuple de Dieu devra compter sur la protection des anges puissants. Bientôt, mais pas tout de suite. Au printemps 1909, tout était encore pour l'avenir. Et les fermiers de Pratt Valley, au pas de leurs chevaux, s'en allaient clopin clopant vers Sainte-Hélène, dans leurs charrettes bruyantes chargées de choux et navets. Tant de choses allaient se passer, tant de choses dans un délai si proche. Les forces de l'histoire se rassemblaient, poussant l'humanité vers un couloir si étroit qu'il allait se révéler l'impasse dont seul le retour de Jésus pouvait l'attirer. Déjà, le jeune Einstein éblouissait l'Europe par ses approches scientifiques inédites sur la matière et l'énergie, précipitant l'humanité vers son rendez-vous avec une effroyable boule de feu. Et pendant ce temps, le monde courait vers un autre défi, une révolution soulevée par un Russe à la poigne de fer implacable du nom de Nikolaï Lénine. Selon toute logique, Lénine n'aurait jamais dû être révolutionnaire. Né sous le nom de Vladimir Ulianov, il était fils d'un fonctionnaire respecté dont la famille jouissait de privilèges comme peu de Russes en ont eu. Logiquement, il aurait dû suivre la voie tracée par son père dans la fonction gouvernementale, perdu au milieu de la jungle de la bureaucratie tsariste, inconnue dans l'histoire. Mais la logique n'était plus de mise. De grands changements se passaient dans le monde et rien ne pouvait plus être comme avant. Quelque part au milieu des tourbillons d'une époque en mouvement, le jeune Lénine devint un révolutionnaire passionné et ardent dont le seul but était de briser l'équilibre des choses. Quelques années plus tôt, un anarchiste russe appelé Sergueï Nechavei avait écrit quelques conseils à faire froid dans le dos sur la marche à suivre pour changer le monde. Ces idées valent la peine qu'on s'y attarde parce qu'elles montrent avec une clarté effrayante la raison pour laquelle nous vivons dans le monde épouvantable tel qu'il est aujourd'hui. D'après Sergueï Nechayev, le seul espoir pour l'humanité résidait dans une destruction complète de l'ordre existant. Tout moyen de destruction était bon pour y parvenir s'il hâtait la révolution, y compris la terreur, l'assassinat et même le sacrifice de personnes innocentes. Voici la lecture d'un passage d'une œuvre de Robert Paine, « La vie et la mort de Lénine », pages 24 et 25. Le révolutionnaire sait cela au plus profond de son être. Il a brisé les liens qui le relient à l'ordre social et au monde civilisé. Il méprise et hait la moralité sociale existante. Jour et nuit, il ne doit avoir qu'une seule pensée en tête, un seul but dans la vie, la destruction impitoyable. Le révolutionnaire, d'après Nechayev, écrivant ces mots en italique pour insister, ne devrait avoir aucune hésitation pour détruire toute position, tout lieu, toute personne, quel qu'il soit dans le monde. Il doit s'infiltrer partout, dans le monde des affaires, du gouvernement, même des églises, faisant semblant d'adhérer au système tout en planifiant secrètement sa destruction. Il parlait ouvertement d'assassinat, arguant que les morts violentes et massives produiront un effet de panique des plus conséquents parmi les gouvernements. Nechayev mourut, mais ses idées furent reprises par Lénine, qui les adopta avec la ferveur d'un évangéliste. Au cours du printemps 1909, il élabora et planifia une révolution qui balayerait la Russie et défierait le monde entier. Et 6 ans plus tôt, Ellen White avait écrit pour l'Église mot pour mot ce qu'il était en train de faire. En 1903, son ouvrage « Éducation » était sorti des presses. Initialement prévu pour être un guide d'éducation pour la jeunesse chrétienne, il contenait néanmoins l'une des plus terribles prédictions du XXe siècle. Dissimulé derrière le paravent des affaires humaines courantes, se développent des tendances qui allaient bouleverser l'équilibre mondial, prétendait-elle. Les personnes les plus pauvres de la planète allaient s'unir et lutter pour renverser la puissance des riches. On verrait s'installer l'anarchie, et en même temps allaient se développer les mêmes doctrines qui conduisirent à la Révolution française, l'athéisme et le matérialisme. Voici ce que nous pouvons lire dans le livre « Éducation » à la page 228. L'anarchie cherche à balayer toutes les règles, non seulement divines mais également humaines. La concentration des richesses et du pouvoir, la vaste conspiration pour l'enrichissement du plus petit nombre au détriment du plus grand, les plans des classes les moins favorisées pour la défense de leurs intérêts et leurs revendications, l'extension au monde entier d'idées semblables à celles qui ont donné naissance à la Révolution française. Tout se ligue pour impliquer le monde entier dans un conflit semblable à celui qui a bouleversé la France. Cette révolution qui eut pour trait marquant le renversement de la monarchie, l'assassinat de la famille royale, la mainmise sur les richesses, la saisie des biens de l'Église et la promulgation de l'athéisme comme religion d'État. La Révolution française a été la conséquence du règne d'un monarque faible et inefficace qui avait épousé une reine de naissance étrangère. Au dernier jour de son règne, le roi français tenta de rétablir l'ordre, quelquefois par la force et quelquefois en accordant des concessions. et cependant ses efforts ne firent qu'empirer l'état des choses. L'anarchie envahit la campagne française et des bandes armées de paysans s'emparèrent des biens des propriétaires terriens et brûlèrent leur héritage d'esclavage féodal. Les terres furent saisies et redistribuées. Les propriétés de l'Église furent confisquées. À Paris, on ferma les églises et les offices religieux furent sévèrement réglementés. Le roi tenta de s'enfuir, fut repris, jugé et exécuté. Puis vint la terreur. La reine fut guillotinée. Plusieurs hauts dignitaires subirent le même sort. La philosophie qui sous-tendait cette tourmente se révéla être l'athéisme lié au matérialisme, le rejet de la religion et la croyance unique en ce qui pouvait être touché et mesuré humainement. Nous ne pouvons pas savoir si Ellen White avait spécifiquement en tête la Russie et la France, mais l'analogie est proche. Changer le mot roi par tsar et Paris par Pétrograd, et tout coïncide, même la terreur rouge de Russie, si semblable à la tourmente post-révolutionnaire vécue en France. Même l'athéisme et le matérialisme prônés aussi par Karl Marx dans son manifeste communiste. Ainsi, en 1903, Ellen White avait prédit une chose ressemblant à la révolution russe et l'avait décrite si clairement qu'on ne pouvait être pris par surprise. Il y aurait des tentatives pour changer le monde entier, nourries par les frustrations des plus pauvres et menées par des gens dont le but déclaré était de vouloir détruire toute position sociale, tout lieu et toute personne. Si au cours de cette période de lutte mondiale, l'humanité créait les armes qu'Ellen White avait prédites, des armes de destruction globale, n'épargnant aucun lieu ni aucune position, alors il était inéluctable qu'il ne reste pas un seul lieu sûr dans le monde. Un jour, tôt ou tard, les gens affronteraient cette rude vérité que, sans le retour de Jésus, la race humaine était destinée à disparaître. Elle ne fut pas le seul écrivain à suggérer de telles éventualités pour l'avenir. Presque 19 siècles plus tôt, l'apôtre Jacques avait écrit un avertissement clair et net sur les troubles de la fin des temps. Écoutons-le dans Jacques chapitre 5, versets 1 à 5. « Et maintenant écoutez-moi, vous les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui vont s'abattre sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont couverts de rouille, une rouille qui servira de témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors à la fin des temps. Vous avez refusé de payer le salaire des ouvriers qui travaillent dans vos champs. C'est une injustice criante. Les plaintes de ceux qui rentrent vos récoltes sont parvenues jusqu'aux oreilles de Dieu, le Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans le luxe et les plaisirs. Vous vous êtes engraissés comme des bêtes pour le jour de la boucherie. » Le monde décrit par Jacques est un paradoxe de richesse et de pauvreté. Certains jouissent d'un haut niveau de vie tandis que les autres meurent de faim. Quelque chose va manifestement mal. Le système tout entier est chamboulé de telle façon que le statut de prospérité que l'on recherchait autrefois est maintenant porteur de dangerosité, et les valeurs que l'on détient ne sont que pourriture. Métaphore qui, pour le moins, suggère l'hyperinflation et l'effondrement de l'économie. Quand les structures s'effondrent, des forces violentes sont libérées, que Jacques décrit comme le jour de la boucherie. Et il ajoute que ceci aura lieu à la fin de l'histoire des hommes, à la fin des temps. Le Christ lui-même a fait une pareille déclaration en prédisant un temps de grande détresse dans ce pays. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, rendues inquiètes. Des hommes mourront de frayeur en pensant à ce qui devra survenir sur toute la terre. Luc 21, versets 23 à 26. Les avertissements se sont succédés encore et encore depuis les temps anciens des Juifs et jusqu'à l'aube du XXe siècle. Ellen White déclarait que cette époque que l'on attendait depuis si longtemps était sur le point de commencer. Dans Témoignage volume 8 à la page 50, elle écrit « Bientôt on verra la mort et la destruction, le crime s'intensifiera et le mal atteindra les riches qui ont exploité les pauvres. Sans une protection surnaturelle, on ne se trouvera en sécurité en aucun lieu sur la terre. Pendant un certain temps, ces prédictions attendirent dans les pages des volumes 8 et 9 des témoignages, trop souvent ignorés par ceux-là même pour lesquels le temps manquait. Mais peu à peu, le ciel de l'histoire commença à s'obscurcir. En 1904, année de la publication du volume 8, le Japon et la Russie entrèrent en conflit. Mis au désespoir, devant ses défaites en Asie, le tsar envoya sa flotte de la Baltique en mission suicide à la pointe sud de l'Afrique. L'amiral japonais Togo la battit et détruisit ce qui restait de la force navale russe. La guerre était perdue et des vagues de révolte secouèrent la Russie. Dans son enthousiasme, Lénine osa même faire un bref retour au pays après son exil européen. Une répétition générale venait d'avoir lieu pour les événements qui allaient bientôt secouer le monde entier. Les feux de détresse étaient bien au rouge dans la prophétie, dans les événements qui agitaient le monde, mais trop peu de gens y prirent vraiment garde. En Amérique, à la maison d'été du château de Coney Island, les foules dansaient jusqu'à l'aurore. En Angleterre, les hommes politiques voyaient d'un regard inquiet la force de la nouvelle flotte allemande, mais se rassuraient à la pensée que si celle-ci était impressionnante, la map-monde l'était encore plus. Sur un bon quart des territoires mondiaux flottait le drapeau de l'Empire britannique. Puis, alors qu'on parlait rêveusement de paix, une nouvelle tempête commença à s'annoncer. Sombre et rude dans le ciel du mois d'août 1914, roulement de tonnerre lointain qui se transformèrent en rafales de fusillades. Cette fois-ci, on ne put éviter la tempête. On lui donnerait le nom de Première Guerre mondiale. Et bien avant qu'elle ne se termine, 10 millions de soldats allaient perdre la vie dans des lieux appelés Marne, Verdun, et la révolution allait enflammer la Russie. Ellen White avait écrit « L'état instable de la société, les signes précurseurs d'une guerre sont graves », et elle avait prédit que l'avenir portait en lui les semences de l'anarchie. Maintenant tout y était. La machine infernale s'était élancée du sommet et dévalait lourdement la pente, et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. À partir de ce moment-là, aucun moyen possible ne put freiner la machine d'autodestruction des hommes. Ni la Société des Nations, ni les Nations Unies, ni la mort de centaines de millions de personnes. Elle poursuivit sa course folle et prit encore plus de vitesse à chaque crise, jusqu'à ce qu'elle s'écrase droit dans le mur de l'ère nucléaire. Nous sommes en août 1945. Seul au-dessus de la ville de Hiroshima vole un bombardier B-29 qui largue une seule bombe et se hâte de quitter l'endroit comme s'il fuyait quelque chose. Quelques secondes plus tard, le ciel matinal s'éclaire d'une lumière blanche chaude et intense, lueur qui détruit le dernier fil ténu reliant l'homme à son état d'innocence. Le monde bascule dans un état de folie aux conséquences inconnues. Sur le territoire divisé de l'Europe, plus de 400 000 km² passent derrière une barrière qui sera appelée le rideau de fer. Les alliés de la Seconde Guerre mondiale se divisent, chacun voulant le pouvoir pour soi-même, inquiet de ce qui se passera dans l'avenir. En sécurité derrière son monopole nucléaire, le président Truman prône le désarmement massif et ne laisse sur le terrain qu'une quinzaine de divisions armées. Le premier ministre Staline, l'esprit plein du souvenir du nuage au-dessus de Hiroshima, laisse sur place 175 divisions prêtes à intervenir. Et à l'abri dans la Russie profonde, les ingénieurs travaillent à leur première arme nucléaire. Elle explosera le dernier lundi d'août 1949. Cette année-là sera marquante pour les puissances qui rêvent de révolution mondiale. À peine 2 mois après l'essai nucléaire soviétique, les forces marxistes envahissent la Chine. Les maoïstes victorieux chantent « L'Est est rouge » et chassent les riches propriétaires au cours d'une purge qui coûte la vie à 800 000 personnes. Sinistre réminiscence de la prophétie de Jacques qui annonce un jour de massacre. Au cours du déroulement de ce processus, le monde communiste prend le contrôle d'un demi-milliard de personnes. Et en une année, le monde occidental se retrouve face au défi d'une invasion armée de la Corée du Sud. Lorsque la Corée du Sud est envahie, au nom des Nations Unies, le monde part en guerre. Pendant 3 ans, le combat fait rage dans la péninsule coréenne. Près de 6 millions d'Américains servent sous les drapeaux. Plus de 50 000 ne reviendront pas. Cette guerre est une véritable impasse. Et le 4 octobre 1957, abasourdis, les Américains apprennent que le premier satellite artificiel a été lancé par l'Union soviétique. D'un seul coup, on se rend compte que les prétentions soviétiques à un savoir-faire technologique sont bien réelles. Ce ne sont pas des fanfaronnades, c'est bien la réalité. 83 kilos de matériel technologique soviétique sont en orbite autour de la Terre. Si les fusées russes peuvent faire cela, elles peuvent aller à n'importe quel endroit de la planète. Les années 60 puis les années 70 s'écoulent dans la confusion. Cuba, Berlin, le premier essai nucléaire chinois. Le quatrième essai se fera à partir d'un missile. Le Vietnam, l'Angola, l'Afghanistan et l'Éthiopie et la Corne de l'Afrique et le Nicaragua et le San Salvador. Puis le conflit s'étend au continent américain, à moins de 2000 km du Texas. Il a, pour ainsi dire, atteint le monde entier. Pendant ce temps, comme on le pensait, les armes se sont perfectionnées au-delà de toute imagination. Une seule fusée peut désormais transporter jusqu'à 10 bombes d'un point à un autre du globe avec une précision telle que chacune peut atteindre sa cible à 100 mètres près. Dans l'espace, les satellites sillonnent l'atmosphère en tous sens, scrutent et espionnent la surface de la Terre, capables de reconnaître des objets de moins de 50 cm depuis une altitude de 300 km. Même les pays défavorisés grèvent lourdement leur économie pour se doter d'avions ultramodernes. On repense alors à la prophétie de Joël. Joël, chapitre 3, versets 9 et 10. Proclamez ceci à toutes les nations. Préparez-vous pour la guerre. Levez vos armes. Transformez vos socs de charrue en épées. Que le faible dise « Je suis fort ». La richesse et la pauvreté. Tentative de révolution à l'échelle mondiale. L'union des révolutionnaires autour des valeurs de l'athéisme et du matérialisme. Une course aux armements à l'échelle planétaire qui se déroule désormais dans l'espace. Les prédictions ne pourraient pas être plus exactes si elles avaient été écrites hier. Ce qui signifie qu'il n'y a absolument aucune raison de s'inquiéter. Dieu ne nous a pas oubliés et l'histoire ne se déroule pas par le fruit du hasard. Elle suit le fil de la prophétie comme si celle-ci était le scénario d'un film. Nous nous trouvons exactement là où nous devons être. Mais cela signifie-t-il que nous devions dormir tranquillement sur nos deux oreilles? L'histoire nous concerne aussi. Nous sommes hors du temps. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative que le retour du Christ. Le peuple de Dieu qui a si longtemps erré n'a maintenant pas d'autre choix que d'annoncer la parousie. Il est enfin temps de considérer notre mission avec sérieux.